Vous l'aviez deviné, vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu ni maître de la Fédération anarchiste. Et c'est l'émission favorite pour la nouvelle année, la première émission de l'année, Chronique Hebdo. Alors tous nos auditeurs, tous nos amis, évidemment, sont enchantés d'entendre à nouveau pour le début de 2013 cette émission si célèbre et qui a quand même pas mal de bouteilles. Et évidemment, aujourd'hui, ça va être un peu une émission particulière parce que, indépendamment du fait, évidemment, que c'est la nouvelle année et que tout le monde va, je l'espère, la passer sans trop de douleur, eh bien, je suis tout seul dans le studio parce qu'il se trouve que Gérard est sur le flanc et que Josiane est partie au soleil parce qu'il fait un sale temps à Paris. Il y a une pluie dès ce matin absolument scandaleuse. Et voilà, me voilà tout seul donc dans le studio de Radio Libertaire pour ces 2 heures avec vous. Auditrice, auditeur et ami de Chronique Hebdo. Alors, on avait imaginé, mais comme je suis tout seul, c'est pas commode de faire la technique et puis d'intervenir auprès de nos invités. On avait pensé inviter, comme on l'avait fait la semaine dernière, non plus 2 invités, Pierre Carle et Julien Brigaud, mais simplement Julien Brigaud, puisque la semaine dernière on a parlé surtout du film de Pierre Carle qui s'intitule Hollande, DSK et compagnie, et qui montre à quel point les médias sont entièrement entre les mains des pouvoirs, montre à quel point ils sont capables de dire tout et son contraire d'une journée à l'autre. Mais il se trouve que Julien Brigaud a fait aussi un documentaire qui, lui, est plutôt une vidéo, puisque c'est surtout des images, un film, plus que des discours de journalistes ou de personnages politiques, et que ce documentaire, que vous pouvez trouver sur Internet, puisque évidemment, tout le monde n'a pas Internet, mais ceux qui ont la chance de l'avoir et ceux qui connaissent quelqu'un qui l'a peuvent très bien aller voir ce documentaire, cette vidéo, dont le thème est l'esclavage moderne, puisqu'il s'intitule « Profession domestique » et que Julien Brigaud a été faire une enquête à Hong Kong où il a découvert au fond toute cette armada de ces centaines de milliers de personnes, de femmes en général, qui sont traitées avec peu de considération, c'est le moins qu'on puisse dire, qui sont souvent maltraitées, qui sont exploitées, qui doivent travailler pendant des heures et des heures sans avoir beaucoup de repos, qui sont évidemment mal payés. Et donc, vous pourrez voir ce documentaire sur Internet, et pour avoir les coordonnées, le lien, vous le trouverez sur le site de Chronique Hebdo, également sur Internet, et puisque nous l'avons ajouté, ce lien, à l'émission de la semaine dernière, à la dernière émission donc de l'année 2012, puisqu'il s'agissait du 27 décembre. Alors c'est donc sur ce thème que je voulais présenter un peu ce travail de journaliste de Julien Brigaud. Et bien sûr, comme nous n'avons pas la télé, ce sera à vous d'illustrer ce que je vous raconterai, puisque j'ai relevé un certain nombre de points particuliers sur cette aventure assez tragique de ces femmes des Philippines, notamment, qui sont à la fois formées à la domesticité, c'est-à-dire qu'il y a des écoles privées qui, effectivement, il y en a plusieurs centaines à Manille et dans les autres villes des Philippines, qui sont formées pour ensuite avoir le droit de s'expatrier, d'aller travailler comme domestique dans différents pays du monde, que ce soit en Amérique du Nord, que ce soit en Asie ou que ce soit en l'occurrence à Hong Kong. Mais je pense que c'est malheureusement un phénomène qui est de plus en plus répandu. Et ce métier qui est de profession domestique, ce métier effectivement rassemble, selon l'enquête qu'a menée Julien Brugo, 300 000, vous entendez bien, 300 000 domestiques étrangers qui travaillent à Hong Kong, la plupart qui vivent et qui sont donc comme les esclaves qui vivent chez leur employeur. Et ces domestiques, évidemment, sont toujours des femmes. Et elles sont généralement importées, ces femmes domestiques, des Philippines ou bien d'Indonésie. Mais je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait un article il y a quelques mois ou un an sur le fait qu'au Qatar et dans les Émirats, effectivement, c'est des travailleurs étrangers qui font tout le boulot, hein, puisque les habitants qui sont peu nombreux et qui vivent des revenus du pétrole ont une certaine richesse, et donc ils utilisent des domestiques aussi, qu'ils soient femmes ou qu'ils soient hommes, et puis dès qu'ils n'ont plus besoin d'eux pour X raisons, ou parce que c'est les fêtes, ou parce que Allah est grand et qu'il faut le saluer, eh bien ils les renvoient purement et simplement comme des chiens chez eux. Alors, Julien Brugo a fait cette enquête à Hong Kong, et évidemment, ces domestiques, qu'on pourrait appeler des esclaves, n'ont absolument pas le droit de devenir des résidentes permanentes de Hong Kong, de cette grande ville de Chine. Hein, elles sont effectivement en permanence sous la menace de devoir quitter le pays, et cet ordre pour les chasser est prévu par les différents textes, les différents règlements, soit figurant dans les contrat de travail des employeurs philippins, soit imposé par les employeurs asiatiques. Et 2 semaines après la fin de leur contrat de travail, eh bien, elles doivent immédiatement quitter le pays. Et donc, dans ce documentaire, on pourra voir l'exemple d'une Philippine qui s'appelle Elena et qui travaille comme domestique depuis presque 20 ans, puisque depuis 1995. Et elle, évidemment, son mari et sa fille vivent aux Philippines. À Hong Kong, comme dans le reste du monde, les domestiques philippines sont très recherchées. Effectivement, on les paye pas, elles sont soumises à toutes les contraintes de l'employeur, qui ne se prive pas. Et puis, elles ont une formation. Hein, c'est-à-dire que le gouvernement philippin a mis en place tout un système d'écoles de formation à l'esclavage, de formation à la domesticité, ce qui fait que ces personnes sont effectivement déjà habituées à se comporter en domestique soumis. Pour les former, le gouvernement philippin a mis en place, il y a déjà 5 ou 6 ans, une directive qui s'appelle la directive des superbonnes, hein, la directive des superbonnes, un programme de formation qui est sanctionné par un diplôme national. C'est-à-dire qu'au fond, hein, eh bien, la La spécialisation de l'éducation, de la formation, elle est particulièrement sinistre, puisque au fond, ces personnes, ces femmes, ne sont pas du tout, ne sont pas du tout habilitées à s'instruire, à développer leurs connaissances et éventuellement à trouver un autre travail. Elles sont immédiatement, et comme évidemment elles ont besoin de vivre et que leurs moyens d'existence sont très faibles, eh bien elles sont dans ces centaines d'écoles, et au bout de 250 heures de cours, elles ont un diplôme et elles peuvent en effet sortir. Et chaque année, plus de 100 000 Philippines, vous entendez bien, plus de 100 000 Philippines obtiennent le diplôme de service domestique. Et le nombre d'écoles privées, tout à l'heure je vous disais 200, mais non, en fait il y en a plus que ça. 350 écoles privées sont agréées par l'État philippin. Et après 216 heures de formation, elle délivre ces écoles le certificat national de service domestique, un diplôme obligatoire pour aller travailler outre-mer. Donc on a bien là une forme nouvelle, hein, d'esclavage, c'est-à-dire qu'au fond, ça n'est plus aussi cynique que lorsque nous étions sous la traite des Noirs, mais c'est tout aussi efficace, tout aussi hypocrite et tout aussi critiquable, bien sûr. En 2010, plus de 150 000 Philippines ont quitté leur pays pour devenir travailleuses domestiques. Principalement, elles ont été en Amérique du Nord, au Proche-Orient et en Asie. Un des éléments, ou bien les éléments que vous pourrez découvrir sur les images commentées de Julien Brigaud dans ce film qui s'appelle Profession domestique. Et à Hong Kong, par exemple, un ménage sur 10 emploie une travailleuse étrangère, et au premier rang des employeurs, eh bien, ce sont les classes supérieures, les classes moyennes de la bourgeoisie chinoise, mais surtout les expatriés occidentaux qui ne se privent pas, en effet, d'utiliser. Alors, on imagine très bien, s'ils rentrent dans leur pays, comment ils se seront comportés avec ces personnes. Et dans le film, justement, il y a un témoignage d'une employée qui s'appelle Léonora, et qui raconte au journaliste qui l'interroge, eh bien, chaque mois, j'envoie les 8/10 de mon salaire auxquels je soustrais les frais de transfert. Hein, donc, la Western Union, la banque, lui demande encore du fric sur son tout petit salaire, afin de payer l'université à mes 3 enfants. Je les ai laissés quand ils avaient 10 ans là-bas, aux Philippines. Le coût de l'enseignement est particulièrement élevé. Il est si élevé que nous sommes obligés de nous sacrifier. Alors voilà le témoignage d'une de ces domestiques. Et quant à Julien Brigaud, eh bien, il arrive à avoir un entretien privé avec la domestique qui s'appelle Elena. Il lui montre le code de discipline d'une école qui s'appelle ABEST, à Manille. Et ce code de discipline comporte 31 règles qui font les bonnes manières des aides ménagères. Alors, quelques exemples de ces règles. Premièrement, il faut brosser ses dents 3 fois par jour. Deuxièmement, ne pas recevoir d'appels téléphoniques de vos amis ou de vos parents. Hein, une autre règle, ne jamais contredire son employeur. Alors, vous voyez, hein, ce qu'on apprend, la soumission, la domestication. Ne pas pleurer aussi, hein, parce que les employeurs n'aiment pas du tout voir des domestiques qui pleurent. Ils considèrent que pleurer, eh bien, porte malheur. Il faut rester humble, bien sûr, et voilà dans les règles, les 25. Il n'est pas toujours facile d'identifier nos erreurs. Voilà ce que c'est, une espèce de catéchisme, car nous pensons le plus souvent que nous avons raison, alors que c'est pas du tout sûr. Donc, si votre employeur se plaint de vous, ce doit être pour quelque chose, et il faut accepter. Il faut accepter et essayer de vous améliorer au lieu de chercher des excuses. Et en ce qui concerne les sentences, eh bien effectivement, l'attitude déterminée, l'attitude que vous avez détermine votre maintien dans l'emploi. Et puis, des règles sur l'honnêteté, sur la propreté. Et Elena conclut, ces écoles... ces écoles, ces 350 écoles des Philippines ne servent qu'à nous rendre serviles, à nous rendre serviles et à nous racketter, nous, les héroïnes modernes, comme nous appellent les hommes politiques. Alors évidemment, les hommes politiques des Philippines trouvent que ces écoles, c'est formidable, et ces esclaves modernes, eh bien, on les appelle des héroïnes. Les hommes politiques philippins, évidemment, elle ajoute, Elena, nous sommes les vaches à lait de l'économie philippine. Gracieusement, leur seul jour de congé, eh bien, la banque HSBC leur offre l'accès à un hall où elles peuvent se réunir, l'accès à Internet, et fournit une ampoule pour le confort de ses domestiques. En juin 2011, pour la première fois de son histoire, l'OIT, alors ça c'est très important, l'Organisation internationale du travail, s'est intéressée au sujet et a adopté une convention collective sur le travail domestique. Eh bien, 15 mois plus tard, donc un an plus tard, sur les 185 pays qui sont membres de l'OIT, seuls l'Uruguay et les Philippines avaient signé la convention. Et selon l'OIT, il y a entre 50 et 100 millions de travailleurs domestiques dans le monde. Entre 50 et 100 millions. Alors, et effectivement, et on peut se demander aussi si finalement le fait qu'il y ait une convention collective sera appliqué, parce qu'on sait très bien que la grande majorité des contrats, on le voit aussi en Europe avec la dégradation du contrat de travail, la grande majorité des conventions collectives ou sont supprimées ou autoritairement ne sont plus appliquées ou sont effectivement contournées par tous les moyens dont l'employeur peut disposer. Et par conséquent, c'est encore une illusion que dans un monde qui est fondé sur l'exploitation des individus et le vol capitaliste, eh bien, je pense que on a là la démonstration éclatante de ce que c'est et de ce que sera le sort de nos enfants, et peut-être même celui de ceux qui sont les plus jeunes aujourd'hui, puisque effectivement, quand on voit en Europe des gens qui se suicident parce qu'ils sont maltraités au travail, quand on voit les discussions qui ont lieu aujourd'hui, puisque vous savez qu'il doit y avoir un accord entre le MEDEF et les syndicats, et qu'il y a une commission, enfin je ne sais quel organisme bidon, composé des membres du gouvernement, des membres du MEDEF et des syndicats, eh bien, les gens du MEDEF veulent qu'on ne puisse plus recourir au prud'homme en cas de licenciement abusif. Donc voilà une demande du MEDEF en disant il y en a marre d'être obligé d'aller se justifier parce qu'on a foutu à la porte un salarié. Et il est vraisemblable que le gouvernement acceptera cette forme-là. Donc deuxièmement, le MEDEF demande aussi à ce que le contrat de travail puisse être interrompu à tout moment, c'est-à-dire au fond sans qu'il y ait à faire un licenciement et sans qu'il y ait une clause qui permet aux salariés de contester la fin de ce contrat de travail. Donc là encore, c'est une façon d'éliminer les quelques protections qui existaient avec le Code du travail en France. Et ce qui est encore le plus sinistre et le plus triste, c'est l'attitude des syndicats. Et vous savez quelles sont les réclamations des syndicats? Ils ne demandent pas des meilleures conditions de travail, un meilleur salaire, une autre relation entre le salarié et l'employeur. Non, ils demandent simplement que les périodes de droit au chômage qui n'ont pas été effectués réellement puissent être conservés et venir s'ajouter au nouveau droit du salarié. Donc la seule revendication des syndicats, elle porte sur le chômage et sur la possibilité pour le salarié de ne pas perdre les quelques euros qu'il pourrait avoir grâce ces jours de droit au chômage qu'il n'a pas utilisé. Alors évidemment, quand vous voyez ça, vous voyez le niveau de la situation et c'est pas seulement et c'est pas seulement aux Philippines. Alors c'est aux Philippines ou bien en Asie, tout ce travail qui finalement montre à quel point les individus ne sont plus que des objets jetables et corvéables. Eh bien, toute cette idéologie, en quelque sorte, néolibérale, toute cette idéologie capitaliste, eh bien, fait en sorte qu'elle se répand à peu près partout et qu'elle prend différentes formes si on est dans des vieux pays comme l'Europe, mais qu'elle a, la tendance générale est à, effectivement, à détruire toute possibilité pour un individu de se révolter contre l'injustice. C'est Proudhon qui disait « Quand je dis que l'esclavage est un assassinat, tout le monde me comprend, mais si je dis que la propriété c'est le vol, eh bien on s'interroge. » Eh bien pourtant, c'est bien sur ce fond-là du profit immédiat de la propriété volée que fonctionnent ces mécanismes d'exploitation des êtres humains. Voilà, vous êtes sur Radio Libertaire, eh bien nous allons poursuivre dans un petit moment cette émission. Émission au cours de laquelle je suis tout seul. Alors, je vous rappelle que pendant les pauses musicales, vous pouvez téléphoner au 01 43 71 89 40, hein, qui est le numéro du studio, mais effectivement, comme je suis tout seul dans le studio, il est possible que je ne puisse répondre à tous vos appels. Voilà, vous êtes sur Radio Libertaire, et c'est l'émission Chronique Hebdo. Eh bien, vous êtes toujours sur Radio Libertaire, il est 10h38 et je suis resté un bon moment au téléphone. Et comme je suis tout seul, évidemment, je ne vais pas vous le répéter encore 20 fois, ça prend un peu plus de temps que d'habitude. Eh bien, deux auditrices m'ont rappelé, l'une que Madame Guigou avait déjà à l'époque où elle était ministre, envisager cette espèce d'embauche de domestiques avec des avantages accordés s'il le faisait à ses, aux employeurs, bien sûr. Et puis une autre auditrice me disait que il y a déjà du, à l'époque de Jospin, décidément, les socialistes sont les principaux auteurs de la déconfiture et de la dégradation de la situation en général, du progrès, de l'inégalité, de l'injustice sociale. Eh bien, du temps de Jospin a été signé par la France et donc par ce Zozo, ce personnage et ses complices du gouvernement, un accord avec l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui effectivement avait comme objectif de généraliser cette espèce de mondialisation et donc de possibilité pour les entreprises, pour les chefs, pour les gouvernements d'envoyer un peu partout, soit de délocaliser leur main d'œuvre, soit d'envoyer dans un peu partout dans le monde, dans des conditions évidemment dont on a vu comme aux Philippines qu'elles sont tragiques et qu'elles sont dégradantes. Eh bien, c'est un accord officiel, donc au fond, et c'est l'OMC, alors donc l'Organisation mondiale du commerce, donc le commerce des individus, le commerce de la viande humaine, le commerce du produit humain, eh bien, il est institutionnalisé et donc on comprend pourquoi cette généralisation en quelque sorte et le fait que le cynisme de ces patrons philippins qui disent eh bien nous avons des femmes, des vraies héroïnes. Hein, domestique, on comprend à quel point la situation s'est aggravée, n'a fait que s'aggraver et risque de ne serait-ce que le petit exemple que je donnais en France à propos de ce qui se passe en ce moment dans la négociation MEDEF syndicat gouvernement, eh bien la dégradation, l'élimination progressive hein, des conventions collectives d'une part, des contrats de travail, du code du travail, c'est-à-dire au fond laisser l'employeur, le patron voler son salarié. Et aucun syndicat ne posera la question de qui est la question fondamentale et que les syndicats un peu plus actifs et intelligents du début du siècle posaient. Mais qui produit les richesses? C'est le salarié. Hein, qui au fond assure un service? C'est le salarié. Comment peut-on donner le seul pouvoir de répartir, de redistribuer cette richesse produite à celui qui n'a rien fait, au rentier, à celui qui a comme simple force sa propre fortune, son propre capital. Et donc je crois que ce renversement absolument indispensable, en disant mais il n'est pas possible de continuer à ce que des gens soient subordonnés, soient soumis et soient volés systématiquement. Et je crois que ce vol capitaliste, eh bien, il a du mal à entrer dans les esprits et dans les actions concrètes. Et pourtant c'est une évidence. Mais comme le disait Gérard au téléphone hier, quand il m'annonçait qu'il viendrait pas, il me disait mais nous sommes dans une période, et il citait Ivan Illich sur ce sujet-là, dans laquelle tout ce qui est fatalisme, tout ce qui est surnaturel, tout ce qui est indiscutable et impossible à discuter, tout ce qui est religieux, tout ce qui est spiritualiste, eh bien, intoxique complètement les cerveaux, ce qui fait que il y a absolument plus aucune recherche, et même en s'appuyant sur des idées qui existaient déjà il y a plusieurs dizaines ou centaines d'années, eh bien il n'y a même plus une une espèce de recherche pour savoir, éventuellement, même sans vouloir les appliquer d'une façon sans tenir compte de la situation actuelle, sans tenir compte des problèmes actuels, au moins rechercher une autre façon de changer cette logique de l'injustice. Hein, et moi, je sais que dès que l'Europe s'est créée, à l'époque, je travaillais dans le secteur de l'assurance agricole. Eh bien, je me rappelle d'avoir lu un papier d'un journal anglais, The Economist, qui existe toujours et qui critiquait cet embryon de Commission européenne qui venait de s'installer et qui, au fond, allait donner des aides en fonction de l'importance des exploitations. Eh bien, ce sujet-là, il est redevenu d'actualité hier dans Le Monde ou avant-hier. Eh bien, j'ai vu encore ce phénomène. La Commission européenne donne des aides même à des gens qui ne sont pas, c'est encore pire qu'il y a 50 ans, même à des gens qui ne sont pas agriculteurs, c'est-à-dire elle donne des aides au nombre d'hectares, hein, mais sans savoir comment et dans quelles conditions ils sont exploités et qui les exploite. Donc cette espèce de folie meurtrière, hein, qui essaye de détruire une grande partie des populations au profit d'une élite. Et quand on parle d'élite, c'est plutôt négatif, hein, de profiteurs, de mafieux. je crois que on est là dans une situation véritablement tragique. Et cette absence totale de réflexion sur le renversement nécessaire de cette relation employeur-employé, patron salarié, cette inversion nécessaire, cette bagarre nécessaire qui doit prendre peut-être des formes différentes, mais elle est fondamentale. Je lisais hier dans Le Monde un long papier de Edgar Morin, vous savez, le philosophe de la complexité, et qui s'en prenait à tous les économistes, à tous les philosophes, en disant qu'ils étaient incapables de trouver des solutions. Et quand on lit son journal, eh bien, ses solutions, c'est simplement le bouquin qu'il a fait avec Stéphane Hessel sur les indignés. Et puis, sa conclusion, c'est de dire, ah ben, peut-être qu'avec une bonne instruction, avec une bonne façon de former les nouvelles générations, nous pourrions en sortir. Alors, voilà encore quelqu'un qui prétend qu'on manque d'idées nouvelles et qui n'en apporte absolument aucune et qui ne fait que paraphraser tout ce qui se dit un peu partout, hein, et enfin du moins dans les sphères du pouvoir, dans les sphères des médias, dans les sphères qui effectivement n'accepteraient pas de voir changer la donne à aucun prix. Et alors cette conception, en quelque sorte, du travail, cette conception du travail qui est, comme le disait Proudhon, un assassinat, hein, qui porte sur de grandes échelles, elle est mise en place et d'une façon cynique. Je ne sais pas si on en a déjà parlé ici, mais c'était Madame Aubry qui parlait de la nécessité de se soucier, du souci du bien-être du travailleur, alors que le travailleur, il a plus de quoi vivre, il a plus d'argent, les patrons lui ont confisqué toute la richesse qu'il avait produite. Ben, Madame Aubry disait, ben, il faut le care. Alors, parce que ça fait bien, c'est un mot anglais qui veut dire le souci. Hein. Je me rappelle d'une chanson quand j'étais jeune qui s'appelait « I don't care ».« I don't care », ça veut dire « je m'en fous pas mal ». Et donc, c'est ça. Et puis, il y avait même un article aussi, il n'y a pas longtemps, sur la bienveillance. Alors, il paraît que pour que tout marche bien dans les entreprises, il faut que les patrons soient bienveillants avec leurs salariés. Alors évidemment, ça ressemble tout à fait à la À l'époque de Napoléon III et des bureaux de bienfaisance, après la bienfaisance, et bien la bienveillance. Mais tout ceci, effectivement, c'est pour dissimuler une exploitation de plus en plus féroce et de plus en plus éhontée. Et effectivement, et personne ne va dénoncer ça, à part quelques journaux et quelques journalistes un peu indépendants, mais ils sont évidemment de moins en moins nombreux, hein, comme l'écrivait ou le dessinait un dessinateur. Il y a quelques années, à Vassivière, on voyait un journaliste très fier de lui, qui se dressait sur ses jambes et qui avait la tête haute en disant « je suis indépendant ». Et il disait ça à un interlocuteur qui était beaucoup plus petit, beaucoup plus modeste et qui le regardait pérorer ainsi. Et donc à l'affirmation « je suis indépendant, je suis un journaliste indépendant », l'interlocuteur disait « pour qui ?» Et ben voilà, hein, pour qui ? Malheureusement, c'est bien, on reviendra peut-être un peu sur ce que pensait Camus du journalisme et de l'indépendance des journalistes, mais pour en revenir au travail, à la notion de travail, eh bien, je crois l'avoir déjà rappelé, mais ça n'est pas nouveau de voir que la condition de travail du salarié, déjà à son époque, hein, il y a 160 ans, 170 ans, en 1830, déjà Blanqui comparaissait les conditions de l'esclave des colonies françaises à celles du salarié. Il écrivait « Il y a du reste moins de différence qu'il ne paraît, d'abord entre l'état social des colonies et le nôtre. Ce n'est pas après 18 siècles de guerre entre les privilèges et l'égalité que le pays, théâtre et champion principal de cette lutte, pourrait supporter l'esclavage dans sa nudité brutale. Mais, ajoute Blanqui, le fait existe sans le nom, et le droit de propriété pour être plus hypocrite à Paris qu'à la Martinique, n'y est pas moins arbitraire, n'y est pas moins intraitable, ni moins oppresseur. Hein ? Intraitable, oppresseur. Eh ben, il écrivait ça déjà à l'époque du début des grandes initiatives du capitalisme industriel naissant, hein, puisque c'était encore sous Louis-Philippe, hein, en 1830. Eh bien, c'est vrai que ce qu'on vient de dire à propos de cette profession domestique et la généralisation de cette minoration, je ne sais pas comment utiliser ce mot, mais faire en sorte que l'individu ne soit plus qu'un objet jetable, eh bien, ne fait que s'accroître. Et aujourd'hui, la forme moderne de l'esclavage, qui est le salariat, n'est pas même contestée par ceux qui paradent avec le drapeau des 35 heures. Hein, les 35 heures d'un contrat léonin, d'un contrat inégalitaire, depuis la première heure. Donc, grande avancée de la justice. Et pour aller au ciel, eh bien, c'est un peu Napoléon III, d'ailleurs, qui disait ça, qui disait, finalement, la bienfaisance, c'est bien. Je crois qu'on en a parlé déjà une autre fois au cours de cette émission, mais il disait, Il avait imaginé donc il avait écrit même une brochure sur l'extinction du paupérisme, et il imaginait des colonies, avec un gouverneur où on enverrait les gens qui avaient plus de travail dans les campagnes, et où ils essaieraient de défricher. À l'époque, il y avait encore beaucoup de terres en friche ou de forêts. Et puis, quand l'industrie aurait besoin d'eux, ils viendraient rechercher ces pauvres gens traités comme des petits soldats pendant toute la durée du chômage. Et il concluait son papier, sa brochure, en disant « La pauvreté ne sera plus séditieuse lorsque l'opulence ne sera plus oppressive. » Hein ? Alors, est-ce que l'opulence est devenue oppressive ? Et effectivement, les oppositions disparaîtront et les prétentions surannées qu'on attribue à tort ou à raison à quelques hommes, hein, les prétentions surannées, c'est-à-dire au fond le droit de ne pas se laisser transformer en esclave, s'évanouiront, ces prétentions, comme les folles brises qui rident la surface des eaux. Hein, c'est de la poésie de Napoléon III, sous l'équateur. Et s'évanouissent en présence du vent réel qui vient enfler les voiles et faire marcher le navire. Et il ajoutait, aujourd'hui, le but de tout gouvernement habile, regardez bien, écoutez bien, doit être de tendre par des efforts à ce qu'on puisse dire bientôt le triomphe du christianisme a détruit l'esclavage, le triomphe de la Révolution française a détruit le servage, le triomphe des idées démocratiques a détruit le paupérisme. Eh ben, je crois que ni le christianisme, ni malheureusement la révolution avortée de 1789, qui a été détruite, comme le disait Proudhon, aussi bien par les idées débiles de Jean-Jacques Rousseau et de la souveraineté populaire que par la terreur de Robespierre, eh bien, aussi bien que la démocratie à la Thiers ou à la Jules Ferry, tout ceci n'a absolument pas abouti à ce que ni l'esclavage, ni le servage, ni la pauvreté ne diminuent. Donc je crois que quand on lit cette brochure de Napoléon III, eh bien on voit à quel point l'endormissement des foules est tout à fait à la mode. Alors, pour en venir au travail, hein, je vous disais tout à l'heure que Blanqui comparait la situation du salarié qui passait sa vie à construire des voies ferrées ou des usines et qui mourait à 50 ans. Je me rappelle même que les pouvoirs de l'époque, qu'ils soient bonapartistes ou républicains, ils imaginaient de créer un système de retraite ouvrière, hein, c'est-à-dire au fond faire en sorte que sur le misérable salaire que le patron lui laissait, eh bien l'ouvrier devait mettre de côté une petite économie pour pouvoir se payer sa retraite. Et sa retraite, c'était rapidement fait, puisque au lieu d'atteindre les 60 ou 65 ans, il était mort à 50. Et donc, pour aller au ciel, disait Napoléon, accepter de n'être qu'un aide matérielle. Hein, et il n'y a pas que Napoléon qui se moquait, mais il y a aussi des gens qui étaient conscients de ce qu'était ce travail, les conditions dans lesquelles ce travail est exécuté, c'est-à-dire avec la soumission. Là, tout à l'heure, quand je lisais les règles de la domestique imposée à la domestique philippine, eh ben, il fallait surtout pas contredire son maître. Il fallait toujours sourire et même si on pensait avoir raison, accepter d'avoir tort et ne pas s'excuser, mais essayer de s'améliorer. Hein, voilà. C'est Céline qui écrivait ça. Gloire à toi, mon fils, tu seras pompeur à bénéfice. Ben oui, voilà, tu seras pompeur à bénéfice. Et Céline aurait souri de ce méprisable mot d'ordre des 35 heures sans le quoi ni le comment. Lui qui écrivait en 1941 au temps de l'État français de Vichy, bah oui, parce que 35 heures, mais comment, hein, qu'est-ce qu'on fait, d'autre part, comment on le fait, qui profite de la richesse produite, hein. Les questions ne sont pas posées. Il écrivait donc en 41. S'il m'est permis de risquer un mot d'expérience sur d'expérience sur le tas, et puis comme médecin, oui, parce qu'il a été médecin des pauvres, médecin des années, pendant des années, s'il m'est permis de dire quelque chose en tenant compte de mon expérience un peu partout, sous toutes les latitudes, il me semble tout bien pesé que 35 heures, c'est le maximum, déjà à l'époque, hein, c'est le maximum par bonhomme et par semaine. Ou tarabustage, par bonhomme et par semaine, par semaine de... Oui, c'est la solution au tarabustage des usines sans tourner complètement bourrique. Ça, c'est le langage de Céline. Il n'y a pas que le vacarme des machines partout où sévit la contrainte. Hein, c'est ça qui est important. Partout où sévit la contrainte, c'est du kiff. C'est du pareil au même. Hein, entreprise, bureau, magasin, jacasserie des clients, c'est aussi casse-crâne écœurant qu'une essoreuse broyeuse à benne. Hein, partout où on obnubile l'homme pour en faire un aide matériel, voilà, un aide matériel, c'est tout, un pompeur à bénéfice, tout de suite, c'est l'enfer qui commence. 35 heures, c'est déjà joli. Voilà ce que Céline écrivait en 1941. Et ben, puisque je parle de Céline, je vous invite aussi à aller au Théâtre de l'Œuvre, dans le 9e à Paris, où se joue en ce moment... Il y avait un article assez élogieux dans Le Monde sur cette pièce de théâtre, donc qui a été, au fond, construite sur la base du roman de Céline, Le Voyage au bout de la nuit. Et donc, je crois que là, on a aussi une illustration de ce qu'est que la condition humaine, que la condition, malheureusement, de la grande majorité de la population, et pas seulement liée au travail injustement rétribué, mais aussi aux conditions dans lesquelles il s'exerce. Hein. Et donc... vous pourrez aller voir Le Voyage au bout de la nuit, qui est pas le roman, hein, mais une pièce de théâtre qui reprend avec beaucoup de précision, selon le commentaire que j'ai lu, l'histoire que Louis Ferdinand Céline a racontée. Et il n'y a pas seulement Céline qui, au fond, s'élève contre cette contrainte, hein, cette contrainte partout où on obdumile l'homme pour en faire un aide matériel, un pompeur à bénéfice, eh bien tout de suite c'est l'enfer. Et Nietzsche avait aussi souligné ce phénomène d'écrasement des particularités, de grégarisation. Quand on voit l'école de la soumission, hein, c'est pas l'école du scandale, comme disait cet auteur anglais, mais c'est l'école de la soumission aux ordres du chef de troupeau. Eh bien, Nietzsche écrivait déjà « Dans la glorification du travail ». Dans les infatigables discours sur la bénédiction du travail, je vois la même arrière-pensée que dans les louanges des actes impersonnels et conformes à l'intérêt général. La crainte de tout ce qui est individuel. Hein, et donc, effectivement, cette espèce de généralisation, de grégarisation, il faut à tout prix que cela disparaisse pour que, oui, et c'est, là encore, c'est une idée qu'il faut combattre, à savoir, on essaye de faire croire que l'individu est égoïste, qu'il a développé son individualisme au détriment de l'intérêt de la communauté, de la collectivité, alors qu'en fait, on a détruit ce qui pouvait être quelque chose qui lui permette de savoir ce que c'est que l'entraide, la justice et l'échange égalitaire avec les autres. Alors, pour compléter ce que disait Nietzsche, on se rend maintenant très bien compte à l'aspect du travail, c'est-à-dire de ce dur labeur du matin au soir, que c'est là la meilleure police qu'elle tient chacun en bride. Hein, la meilleure police, elle tient chacun en bride, et qu'elle s'entend vigoureusement à entretenir et à entraver le développement de la raison, le développement du désir, du goût, de l'indépendance de l'individu. Car le travail use la force nerveuse dans des proportions extraordinaires et la soustrait à la réflexion. Hein, c'est le propre de ces écoles philippines, la soustrait à la réflexion, à la méditation, au rêve, au souci, à l'amour et à la haine. Il place toujours devant les yeux un but minime. Voilà ce que écrivait Nietzsche. Hein? Donc, je crois que quand on voit la situation actuelle, hein, et pas seulement à la lumière de cet exemple des Philippines, quand on voit ce qui se passe, hein, eh bien, on est effectivement assez désemparé devant cette espèce de résignation et cette espèce d'inertie. Pour en revenir à ce que je disais à propos de Nietzsche, il ajoutait, en ce qui concerne ses traits de misère, ses employés, il y avait une chanson comme ça, car je ne suis qu'un employé, un trait de misère, un salarié. Eh bien, Nietzsche ajoutait à ce que je vous disais tout à l'heure dans un texte qui a été écrit en 1880, Aurore, il ajoutait « Ces jeunes gens ne manquent pas de courage et de caractère, ni de disposition, ni de zèle, mais on ne leur a jamais laissé le temps de se donner eux-mêmes une direction, les habituant au contraire, dès leur plus jeune âge, à en recevoir une. Et lorsqu'ils furent mûrs, ces jeunes gens, pour être envoyés dans le désert, on agit autrement. On les utilisa, on les déroba à eux-mêmes, on les éleva à être usés quotidiennement. On leur en fit un devoir et un principe. Et maintenant, ils ne peuvent plus s'en passer. Hein, ils ne peuvent plus s'en passer. C'est ça qui est terrifiant aussi dans cette, dans cette glorification du travail et du travail contraint. Ils ne veulent plus s'en passer, ils ne veulent pas qu'il en soit autrement. Voilà, mais à ces pauvres bêtes de trait, hein, voilà ce que Nietzsche dit, mais à ces pauvres bêtes de trait, il ne faut pas refuser leurs vacances. Ainsi nomme-t-on cet idéal d'oisiveté d'un siècle surmené. Des vacances où l'on pense enfin paraisser à cœur joie, être stupide et enfantin. Voilà, voilà ce que Nietzsche disait, écrivait dans Aurore en 1880. Bon, eh bien, vous êtes sur Radio Libertaire. Ça fait déjà un bout de temps que j'évoque ce sujet sur le travail. Il est maintenant 11h10, bientôt. Ben, je vous laisse en compagnie. Eh bien, écoutez, vous allez essayer de deviner en compagnie de... Je ne sais pas qui ça va être. Radio Libertaire, Chronique Hebdo. Alors effectivement, un auditeur, un ami me disait que finalement on est en train de faire des grands développements sur le DVD, enfin pas le DVD, mais le petit film de Julien Bricot, sur profession domestique. Et cet auditeur me rappelait que, eh ben, il y a peut-être une trentaine, une quarantaine d'années, il y avait en France, dans le cadre de l'éducation nationale, des écoles ménagères pour les filles, des écoles ménagères. Donc effectivement, on a oublié ça parce qu'on a pensé que finalement l'égalité homme-femme dans les pays dits développés et pas forcément civilisés, l'égalité homme-femme c'était améliorée, hein, bien qu'elle soit encore très très largement insuffisante. Mais donc on a oublié tout ça, hein, et c'est vrai que finalement ces écoles ménagères qui existaient en France considéraient la femme comme n'ayant que une seule tâche à accomplir et une seule formation, un seul mode d'instruction, c'est-à-dire savoir tenir un ménage, savoir faire la cuisine, et c'est tout. Donc il y avait aussi cette... Alors faudra suggérer donc à tous ceux qui cherchent, comme Madame Guigou l'a fait, me disait une auditrice à un moment, il faudra suggérer à ces horribles personnages qui sont les... Quand on voit Héro en train de... Il y a une photo d'Héro en train de suivre comme un petit chien la patronne du MEDEF. Quand on voit ces personnages, c'est vrai que il vaut mieux en rire. Je sais plus qui disait. C'est peut-être ce matin que j'entendais un commentaire sur un bouquin de Yasmina Reza qui effectivement fait une description assez terrifiante de la société, de la vie des individus. Le titre c'est Heureux et Heureux, toujours heureux ou un truc comme ça. Enfin, il y a Heureux dedans. Et la conclusion, c'est que il y avait qu'une solution pour s'en sortir un petit peu, c'était de rire. Alors bon, ça rejoint un peu ce que disait l'ode à l'ironie que Proudhon développait. Alors, donc, on va peut-être arrêter sur ce thème du travail. Mais enfin, je voulais quand même, et c'est lié aussi à cette espèce d'élitisme, à cette espèce de confiscation par des élites totalement préoccupés uniquement de leur propre intérêt, hein, c'est-à-dire qui prétendent gouverner, mais qui gouvernent pour eux, hein, autrement dit, qui veulent bien à la limite faire la charité, mais surtout qu'elle commence par eux. Hein, charité bien ordonnée commence par soi-même, et c'est vrai que cette conception de l'injustice statutaire, idéologique, l'injustice sociale qui est le fondement même de ce qu'on appelle la démocratie, que Castoriadis appelait la démocrature, eh bien... est quelque chose qui est tout à fait actuel. Dans le Canard enchaîné de cette semaine, eh bien, vous pourrez lire un article sur ces personnages, ces hauts fonctionnaires, ces personnages qui tiennent le haut du pavé, et c'est-à-dire qui nous prennent à la gorge, non seulement qui ruinent les pauvres petits épargnants, mais qui en plus veulent diminuer les retraites, veulent bloquer les salaires, veulent enfin augmenter la TVA sur des produits de consommation. Donc ces personnages absolument hideux, et notamment le premier d'entre eux, c'est-à-dire Hollande, le Hollandais, il y avait le Hollandais volant, je me rappelle plus, ça devait être un coureur cycliste qu'on appelait comme ça. Mais là, c'est le Hollandais voleur. Hein, c'est plus le Hollandais volant, c'est le Hollandais voleur. Et donc, le Canard enchaîné nous fait une demi-page sur le nombre de gens de Sciences Po et de l'ENA, de la, je sais plus comment on appelle ça, enfin, une école, enfin, non, c'est pas une école, mais c'est une cohorte de gens qui ont dû suivre l'ENA pendant un certain nombre d'années, qui étaient tous ensemble, et c'était donc la cohorte Voltaire. C'est pas cohorte, c'est autre chose. Et il met un peu partout dans les postes de responsabilité, que ce soit au gouvernement, que ce soit dans les entreprises, des gens qui, comme lui, ont fait Sciences Po et l'ENA. Et donc, cette espèce de magouille permanente, hein, que ce soit donc dans les gouvernements, que ce soit maintenant de plus en plus dans les banques ou dans les entreprises qui commandent en quelque sorte l'ensemble de l'organisation économique, eh bien ce sont des personnages qui sont cooptés parce qu'ils font partie de la même mafia. Alors on appelle ça une élite, hein, c'est l'élite qui doit nécessairement gouverner, parce que le peuple est totalement incompétent. Sa souveraineté, comme dirait Jean-Jacques Rousseau, ne s'exprime que par le vote, mais pour le reste, il est totalement nul, et donc il n'a pas à se mêler des affaires de ceux qui dirigent. Alors donc, j'avais... déjà avant cet article du Canard enchaîné, j'avais remarqué, vous l'aviez peut-être fait remarquer aussi, c'est que depuis... une sombre histoire de fric dépensé à tort et à travers, et un rapport de la Cour des comptes qui critique Sciences Po. Hein, Sciences Po, l'ENA, c'est le prolongement. Eh bien, vous avez peut-être remarqué qu'il y a un certain nombre d'articles pour dire, ah ben oui, c'est vrai que finalement les responsables, et notamment des personnages comme Pebro ou Casanova, sont impliqués, mais effectivement, la Cour des comptes ne les a pas désignés nommément, mais ça va de soi qu'ils ont laissé se dégrader une situation, l'école nationale des sciences politiques, qui était une école privée quand elle a été créée en 1871. D'ailleurs, ça, c'est un phénomène qui explique bien ce que ça veut dire qu'être dans la mafia de Sciences Po. Vous savez que c'était un certain Boutmy, lui aussi un fils de banquier, ou enfin une tabilité, qui a eu l'idée de créer cette école en disant bah, il faut arriver à ce que la populace accepte d'être dirigée, non pas à coups de bâton et de sabre, comme ça venait se faire avec la Commune de Paris, mais par des élites qui auraient le savoir et dont on considérerait qu'ils ont tellement bien tout le savoir que on peut leur laisser la gestion de l'ensemble de la société. Donc ce personnage Boutmy a déposé un c'est peut-être pas une loi, mais en tout cas il a déposé des statuts d'une école privée, hein, Sciences Po. En février 1871, c'est-à-dire que la Commune n'avait pas encore été complètement massacrée, Monsieur Thiers n'avait pas encore réussi à assassiner plusieurs milliers de Parisiens, et on venait de perdre la bataille contre les Prussiens. Et ce fameux Boutmy, créateur de l'école Sciences Po, il disait, mais oui, on vient d'avoir la Commune, alors les affreux communards, les affreux fédérés, on vient de perdre contre les Prussiens, donc il faut à tout prix qu'on fasse une élite remarquable. Et c'est comme ça qu'est né. Alors on pourrait dire, en extrapolant un peu, que l'école Sciences Po est née sur les cadavres de Monsieur Thiers a fait pendant la Commune de Paris. Hein, elle est née sur un charnier. Alors on n'a pas à s'étonner, effectivement, maintenant, de voir comment elle a pu évoluer. Et dans les différents articles qui se sont succédés ces derniers temps sur cette histoire, le directeur général de Sciences Po, qui était apparemment un personnage à qui les présidents, les conseils d'administration avaient laissé tout pouvoir, s'est amusé à se servir un salaire royal. Il a embauché des gens en les payant, même s'ils faisaient pas grand chose. Enfin bon, ce qui a entraîné cette remarque et ces observations de la Cour des comptes. Mais ce qu'il y a de plus extraordinaire, hein, c'est que finalement, les deux patrons de Sciences Po qui ont été impliqués, sauf indirectement, et qui s'appellent donc Casanova et Pébrot, mais ce sont des gens qui effectivement étaient des seconds couteaux, hein. Et il faut reconnaître que cette affaire de Sciences Po, qui dure déjà depuis plusieurs mois, qui a suscité aussi des assemblées générales de personnel, il y a eu une assemblée en novembre 2012 qui a regroupé une centaine de salariés de Sciences Po et qui ont voté à main levée et qui ont demandé au président du conseil d'administration, Jean-Claude Casanova, et au président du conseil de direction, Michel Pébrot, de présenter leur démission. Hein, évidemment, ils ne l'ont pas fait, parce que vous pourrez regarder la biographie de ces deux personnages, bon ben, vous allez tout de suite voir à quel point ils sont des riches héritiers, et pas seulement sur le plan des pouvoirs gouvernementaux ou institutionnels, mais aussi sur le plan du fric. Et quant au 16 décembre 2012, donc 15 jours plus tard, de nombreuses personnalités, dont Robert Badinter, Pierre Berger, Alain de Besançon, Jean-Denis Brodin, Jean Daniel, Alain Finkielkraut, Marc Fumaroli, Ron Halévy, Jacques Julliard aussi, hein, Pierre Manet, Pierre Nora, et bien tous ces gens-là ont été scandalisés qu'on ose demander la démission des crapules que sont Casanova et Pébrou. Et donc, ils ont fait un texte dans Le Monde qui est particulièrement gratiné, hein, en disant... c'est tout à fait... Oui, il y en a 40, hein, hein. Il y a un collectif de soutien à Jean-Claude Casanova, hein, avec tous les personnages que je dis, Balinter, Berger, Bérou, Besancenot, Boiteux, Boudon, Bredin, Brague, enfin bon, il y en a 40. Quant au Sperber aussi, bon, Finkielkraut. Qu'est-ce que ces gens-là ont écrit ? Eh bien, ils ont dit, voilà, ces 37 chevaliers servants, ils ont dit défenseurs de la vertu de Jean-Paul Casanova, ils s'expriment ainsi. Voilà ce qu'ils écrivent. Jean-Claude Casanova, président de la Fondation nationale des sciences politiques, est très injustement traité par les médias. Alors, les médias n'ont pas spécialement cité lui, ils ont simplement soulevé la question du remplacement de ce directeur un peu excessif, qui jouait avec le fric et avec les idées nouvelles, apparemment. Un certain Descoings, qui est mort accidentellement à New York. Eh bien, donc, nous sommes choqués de la manière dont plusieurs médias ont parlé de Jean-Claude Casanova à l'occasion de la crise de Sciences Po. Nous sommes témoins de la passion de Jean-Claude Casanova pour le bien public. Vous entendez ça ? Pour le bien public. Nous sommes témoins de la passion de Jean-Claude Casanova pour le bien public et de son intégrité personnelle et de son désintéressement. Alors comment 40 personnes peuvent-ils écrire avec cette assurance, alors que la Cour des comptes a dit il y a quand même pas mal de choses à revoir dans les comptes de Sciences Po, et les deux personnages qui avaient autorité sur le fameux Descoings, le fameux directeur, qui est à l'origine de ces dépenses excessives, non justifiées, les deux personnages, évidemment, Casanova et Pébrou. Et comment peut-on affirmer, sans qu'il y ait eu la moindre enquête, hein, sans qu'il y ait eu la moindre enquête, et encore il y a eu celle de la Cour des comptes, faudrait voir effectivement les conclusions qui ont été apportées, je crois qu'elles sont pas encore définitivement faites. Comment des personnages comme ceux que je viens de vous citer peuvent dire qu'ils sont garants de l'intérêt de Jean-Claude Casanova pour le bien public, qu'ils sont témoins de son intégrité personnelle, qu'ils sont témoins de son désintéressement. C'est incroyable. On voit la connivence, la complicité, on voit la mafia, hein, la mafia de ces personnages qui prétendent être l'élite de la France et qui effectivement, dès qu'il y a un d'entre eux qui est contesté et encore timidement, eh bien c'est tout de suite la levée de bouclier. La revue Commentaire qu'il dirige depuis 1982, Jean-Claude Casanova, dans un esprit de vérité et d'impartialité, est reconnu internationalement comme l'une des plus sérieuses revues européennes. Alors en plus, il est intègre, comme il est désintéressé, et ben en plus il a fait une revue sérieuse. Voilà, c'est, nous ne pouvons admettre, voilà la conclusion de cette bande de voyous, nous ne pouvons admettre, sans en être blessés et indignés, qu'on fasse courir sur cet homme éminent des insinuations insultante. Et on fait pas du tout courir des insinuations insultantes. On se contente de rappeler des faits qui ont été établis par la Cour des comptes. Alors, ce qui est aussi extraordinaire, c'est que cette mafia, elle est pas seulement française, mais aussi internationale et européenne. Et on a eu également un autre article dans Le Monde qui a été signé par Fukuyama, un économiste de droite, par des gens comme un prix Nobel d'économie, également évidemment de droite, Edmond Phelps, prix Nobel d'économie, Claude Steele, enfin bon, toute une série de personnalités des États-Unis pour dire la même chose que les 40 voyous dont je citais le nom, j'ai pas cité tous hein, parce qu'il y en a trop. Il y a Marcel Gauchet aussi, hein, il y a pas seulement Finkielkraut. Il y a aussi des gens qui sont moins connus, Manuel Leroy Ladurie, Jean-Pierre Le Goff, Milan Kundera. Oui, il y a Jacques Julliard aussi, hein. Donc on peut dire que tous ceux qui sont issus de Sciences Po, qui ont en effet collaboré à Sciences Po, qui ont bénéficié de tous les avantages qu'ils pouvaient avoir en allant distribuer conférences ou petits cours à Sciences Po, tous ces personnages-là se sont précipités pour dire « Ah, mais il faut quand même pas toucher à notre... Jean-Claude Casanova, hein, il faut surtout pas que on puisse dire que il a peut-être pas bien tenu son rôle de président d'une organisation qui est la plus payée par l'État. Oui, parce qu'en plus cette école privée reçoit des subventions de l'État qui sont beaucoup plus importantes que celles des universités. Alors donc, voilà ce que je voulais dire à propos de cet article du Canard Enchaîné qui dit, la mafia Sciences Po, le président Hollande, le Hollandais voleur, continue à faire des siennes et continue à installer ses hommes de main, ses hommes de paille, ses hommes de petite vertu. Oui, parce qu'en plus, hein, Badinter qui va nous faire un numéro parce qu'il prétend être à l'origine de la décision de l'abolition de la peine de mort, c'est quand même un personnage qui est absolument odieux, un personnage odieux avec sa femme d'ailleurs, hein. C'est des gens qui, sous couvert d'intellectualité, de pouvoir gouvernemental ou dépendant du gouvernement et des banques, c'est des personnages qui sont milliardaires grâce à la fameuse société de publicité, Publicis. Or, qu'est-ce que c'est que la réclame, comme disait Élisée Reclus, la réclame, c'est ignoble. Hein. Donc l'ignoble Publicis permet à Badinter, mari et femme, de disposer de millions, sinon plus, de millions d'euros régulièrement. Hein. Donc l'ignominie, l'aspect ignoble, eh bien effectivement, il symbolise bien cette action de défense d'un ignoble comme eux. Hein. Donc voilà ce que on peut dire sur ce sujet. Voilà, vous êtes sur Radio Libertaire, il est 11h35, c'est l'émission Chronique Hebdo, et peut-être qu'on complétera tout à l'heure en revenant un peu sur l'émission de la semaine dernière sur le journalisme. Bien, vous êtes toujours sur Radio Libertaire, l'émission Chronique Hebdo se termine dans 5 minutes, il est 11h54. Je vous disais que pour conclure, je voulais compléter un peu les positions d'Albert Camus sur le journalisme, et notamment en ce qui concerne ces deux... L'autre fois, la semaine dernière, j'ai évoqué sa réponse à la question qu'est-ce que vous pensez de la profession de journaliste, et il répondait: c'est une des plus belles professions que je connaisse, parce qu'elle vous force à vous juger vous-même. Alors je crois que ça, c'est vachement intéressant. Mais alors, à l'époque, en 1951, il avait été aussi questionné sur la situation du journalisme à cette époque-là. Et la question était: en tant qu'écrivain, que pensez-vous de la presse française actuelle? Et Camus répondait, donc, dans cette revue... Caliban: à une ou deux exceptions près, le ricanement, la gouaille et le scandale forment le fond de notre presse. À la place de nos directeurs de journaux, je ne m'en féliciterai pas. Tout ce qui dégrade la culture raccourcit les chemins qui mènent à la servitude. Une société qui supporte d'être distraite par une presse déshonorée et par un millier d'amuseurs cyniques décorés du nom d'artistes court à l'esclavage, malgré les protestations de ceux-là même qui contribuent à sa dégradation. Alors bon, je crois que c'est tout à fait d'actualité. Hein. Autre réflexion d'Albert Camus sur la presse. La question était la suivante: en tant que journaliste, pensez-vous que la presse d'aujourd'hui reflète, comme le prétendent ses partisans, l'état d'esprit du public lui-même? Et la réponse de Camus était: la presse reflète exactement l'état d'esprit de ceux qui la font. Eh bien voilà, hein, je crois que on a là encore une réflexion qui est complètement actuelle. Enfin, troisième question, les plus gros tirages s'obtiennent visiblement par des concessions que vous dénoncez. Et il répondait: le public qui continue de lire ces journaux est celui qui n'en a pas été dégoûté. Il a donc le cœur solide. En ce qui le concerne, on est toujours sûr de gagner en faisant appel à sa pente la plus facile. Mais la question est de savoir si le rôle de la presse est de s'adresser à la pente la plus facile ou de solliciter au contraire un effort de réflexion. Hein, alors je crois que là encore, hein, vous allez dire que sur Radio Libertaire, dans Chronique Hebdo, on essaye de susciter un effort de réflexion et qu'on essaye d'éviter la pente la plus facile. Mais je crois que ces réflexions d'Albert Camus sont particulièrement intéressantes. Et vous pourrez aussi trouver, je pense, dans les archives du Monde, on en parlera la prochaine fois, un manifeste qu'il avait rédigé en 1939, juste avant le début de la guerre, dans lequel il disait que pour lui, les qualités du journaliste, c'était La lucidité, c'était le refus aussi, hein, de faire n'importe quoi. Et puis, c'était aussi l'ironie, d'une certaine façon, le rire, l'ironie. Et puis enfin, l'obstination. L'obstination, l'ironie, la lucidité et la lutte contre la bêtise, c'est-à-dire effectivement le refus d'encourager la mauvaise pente. Voilà, il est 11h58, et bien je vais arrêter mon émission maintenant en vous souhaitant une bonne semaine, et puis peut-être que la semaine prochaine, ce sera Gérard qui prendra le relais. Voilà, bonne semaine à tous les auditeurs de Chronique Hebdo et de Radio Libertaire. Salut.